Allez, de nature curieuse et bien décidée à comprendre les différents phénomènes qui occupent ce monde et leur interaction, Mathilde Vautier, jeune agronome de 27 ans, a récemment entrepris la création d'une émission de diffusion et qu'elle nous a envoyée. C'est une rencontre et oui, on est à la croisée fédérée. Quel beau métier, à la croisée des rencontres, à la croisée des chemins fédérés. Effectivement, quel beau métier, la radio. Un souffle avec une respiration proposée par Sophie Rock et puis une réflexion sur demain. Cultiver, oui, mais comment? À se poser des questions, à les reformuler. Ah oui, la multiculturalité. Mais qu'est-ce donc regard d'une jeune femme de 27 ans qui a déjà un joli parcours universitaire et de formation, quelques expériences de vie heureuses et malheureuses. Bref, elle est rentrée plein pot dans la vie. Elle a le regard lumineux et en même temps, elle sait parler des choses qu'elle a envie de rêver. Demain, elle le partage avec nous. Je vous propose de retrouver Mathilde Vautier qui va nous parler de multiculturalité dans son Lille podcast, le podcast qui se déplace un peu partout. Mathilde Vautier.
Bonjour à tous et bienvenue sur Lille podcast, le petit podcast qui se déplace. Commençons par définir les contours du mot utilisé. D'après l'internaute, la multiculturalité, c'est la diversité culturelle, les caractéristiques d'un projet, d'une personne ou d'un groupe qui mélange différentes cultures. Et la culture, d'après la définition de l'UNESCO de 2013, c'est, dans son sens le plus large, l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. D'après les deux définitions précédentes, la multiculturalité d'une personne ou d'une société, c'est le fait de mélanger les arts et les lettres, les modes de vie, comme peut-être les spécialités culinaires, la musique ou les influences vestimentaires, les traditions et les croyances. La culture, ce n'est donc pas quelque chose que nous avons dans les gènes, mais bien des caractéristiques d'un autre ordre qui s'acquiert tout au long de notre vie, à commencer par notre langue dite maternelle, les codes sociaux et us et coutumes que l'on intègre inconsciemment dès notre plus jeune âge et qui définiront la culture originaire à laquelle nous appartenons. Bien sûr, cette culture originaire peut être multiple si nos parents sont issus de deux nationalités et de deux cultures différentes. Une fois que notre corps a imprégné toute la culture dans laquelle il a été baigné, comment bouge-t-elle donc cette culture et comment est-ce qu'elle évolue? Si tu restes dans ton pays natal et que tu ne croises aucune autre culture, alors il est fort probable que la culture qui est tienne restera majoritairement celle de ton pays d'origine, voire celle de ta région d'origine. Mais si tu commences à voyager, ou ne serait-ce qu'à écouter de la musique d'une autre culture, alors petit à petit, ton corps, ou plutôt ton cerveau, imprégnera des bribes d'autres cultures en lui. Ma culture n'est pas figée et elle évoluera tout au long de ma vie avec les interactions culturelles que je vais rencontrer.
Yo, Mona Lisa, could I get a date on Friday? And if you're busy, I wouldn't mind taking Saturday. Round up the Passy Fuji coming around the way.
D'après moi, il y a donc plusieurs échelles culturelles à considérer et il convient pour chacune d'elles de séparer l'individu de l'entité qui est décrite. Chacune de ces échelles culturelles, qui comprend évidemment de nombreuses nuances, se superposent les unes aux autres sur un individu comme un accoutrement vestimentaire que l'on porterait tous les jours. La première échelle culturelle, je dirais que c'est la culture familiale. Ici, l'entité, c'est la famille, et l'individu, c'est le membre de la famille, qui se définit aussi par la place qu'il occupe, le père, la sœur, l'oncle, la grande-tante, le chien, etc. Nous venons ici d'enfiler des sous-vêtements à notre individu. La deuxième échelle, c'est la culture régionale, qui peut être plus ou moins forte selon les régions françaises. Nous pouvons citer les langues ou patois régionaux qui ont massivement été effacés par l'imposition de la langue française au XIXe siècle et qui revendiquent aujourd'hui leur droit d'existence, comme les écoles Diwan en Bretagne ou les cours de Corse présents dans les écoles. La culture régionale, c'est aussi bien sûr les spécialités culinaires, la musique, les danses, les coutumes, des traits de caractère comme l'humour, le tempérament, les interactions sociales, etc. Souvent, ces héritages sont très anciens car ils s'étendent sur un territoire restreint dans lequel les individus sont en interaction directe. L'entité considérée ici, c'est donc la région. Nous pouvons considérer qu'il s'agit alors d'un haut, un polo, un t-shirt cousu d'une seule pièce ou de plusieurs patchworks, surmonté d'un pull ou d'une veste si les cultures régionales sont multiples. La troisième échelle culturelle serait celle du pays. Une ou plusieurs langues officielles, des fêtes nationales, des lois communes, des références culturelles partagées. Cette échelle, plus grande, n'est pas une culture spontanée, mais elle va demander une coordination nationale, une volonté politique, pour que des individus du nord au sud du pays aient le sentiment d'appartenir à un même groupe. Cela rejoint la problématique de la langue française soulevée précédemment. Si la langue française, telle qu'on la connaît, est aujourd'hui parlée dans toutes les régions de France, et c'est jusqu'à Tahiti ou en Nouvelle-Calédonie, c'est parce qu'elle a été violemment imposée ces deux derniers siècles. Et les blessures que cela a entraînées ne sont d'ailleurs pas encore fermées à ce jour. La culture d'un pays, voilà donc un pantalon pour notre individu. Et rien n'empêche à ce pantalon d'avoir les jambes de différentes couleurs. La quatrième échelle, enfin, pourrait être celle associée au continent ou plutôt aux pays frontaliers. Souvent, de nombreux éléments culturels sont partagés avec nos pays voisins, comme ce que l'on appelle couramment la culture latine des pays européens méditerranéens, cette nonchalance, contrairement aux pays nordiques, décrits globalement plus froids dans leurs rapports sociaux. Ça y est, notre individu a finalement des chaussures. Le voilà donc habillé. Il y a des sous-vêtements pour la culture familiale, un t-shirt pour la culture régionale, un pantalon pour la culture nationale et des chaussures pour la culture continentale. Mais plus que les vêtements, qui finalement m'ont été largement suggérés par mon environnement de naissance et que je n'ai pas choisi, comme un parent choisirait la tenue de ses enfants, moi, ce que j'aime surtout, c'est agrémenter ma tenue par de nombreux accessoires. Des boucles d'oreilles, des sacs, des sacoches, des sacs à dos, du vernis, du maquillage, une coupe de cheveux, des lunettes, une casquette, bref, toutes ces petites choses que l'on choisit scrupuleusement d'ajouter à notre tenue et que l'on va piocher chez nos amis, chez nos voisins ou que l'on ramène de nos vacances parce qu'elles sont pratiques ou parce qu'elles portent une symbolique, mais surtout parce qu'elles nous plaisent. Ces accessoires culturels, pour moi, ce sont donc toutes ces influences venues d'ailleurs que je choisis de porter ou non, fréquemment ou de temps en temps, plus ou moins discrètement. Et le terme d'accessoire n'est surtout pas à entendre comme s'il s'agissait d'un élément superflu, mais bien au contraire, l'accessoire est à comprendre ici comme un élément de beauté que nous choisissons avec la plus grande finesse pour qu'il s'accorde pleinement avec le reste de notre tenue.